Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 4 avril 2024. Ce matin, je me suis levé plus tôt que d'habitude et j'ai lu plein d'articles. J'ai passé pas mal de temps sur X et après tout ça, j'en arrive à la conclusion qu'il y a deux choses qui intéressent vraiment le marché depuis lundi. C'est la destinée des taux, si l'on les interpole avec la montagne de chiffres économiques qui nous tombe dessus tous les jours, et la destinée de Tesla qui fait le grand écart entre les excessivement optimistes et les excessivement pessimiste. Pendant ce temps, Musk reste quand même le troisième homme le plus riche du monde et Powell déclare que les taux vont baisser, mais pas tout de suite. Ah, mais alors ils vont baisser quand même. Avant d'aller plus loin dans la merveilleuse histoire de la séance de bourse du 3 avril 2024, il faudra noter que les performances globales des bourses mondiales étaient à peu près aussi excitantes qu'un film qui vient de remporter la Palme d'Or à Cannes. En regardant la clôture des principaux indices, on pouvait clairement se dire que s'il se passe quelque chose, c'est surtout dans la tête des intervenants qui sont en train de mettre tout ce qu'ils savent sur la macroéconomie de ce dernier mois dans un grand bol et de tout mixer ensemble en espérant que ça donnera quelque chose qui pourrait nous donner un peu plus d'informations sur la suite des événements. Alors que le Dow Jones était en baisse de 0,11%, les autres indices terminaient pratiquement tous en hausse, mais une hausse plus qu'homéopathique puisque personne n'affichait de plus haut tous les temps, chose qui n'est plus arrivée depuis au moins une semaine. Quoi qu'il en soit, hier, la priorité était la chasse aux informations. Plusieurs banquiers centraux devaient parler et il y avait une quantité folle de chiffres économiques qui étaient censés nous donner la clé pour les semaines à venir. Même des chiffres qui généralement n'intéressent personne devenaient soudainement presque aussi importants que la publication du PCE de la semaine dernière, ou pire, presque aussi importants que la publication des chiffres des NFP qui seraient annoncés par Powell et Lagarde en même temps. Bref, hier on a pris les choses comme elles venaient et on en a tiré des conclusions qui s'imposaient. Tout d'abord, si l'on doit prendre les publications dans l'ordre, nous avons commencé par le CPI en Europe. Je crois d'ailleurs que celui-là pourrait largement ramasser le titre du chiffre économique dont tout le monde se fout le plus dans le monde de la finance. Et c'est ballot parce que lorsqu'on regarde le CPI et le Core CPI, tous deux étaient en dessous des attentes et plus bas que le mois dernier. On aurait donc presque eu envie de croire que le plan de marche de Madame Lagarde fonctionne comme prévu. Bon, on n'est pas encore à 2% d'inflation, mais on pourrait presque dire que ça va mieux qu'aux USA. Après, on peut se poser des questions sur le comment ils arrivent à dire que l'inflation baisse avec le baril de Brent qui a pris 7% au mois de mars. Mais se poser des questions, c'est mal, et mettre en doute les compétences en calcul de la Grande Europe, et ça, c'est encore plus mal. En 2024, c'est un péché mortel qui peut valoir des coups de fouet sur la place publique. On retiendra donc que le CPI européen était en baisse de 0,1%, mais on baisse quand même. Par contre, on retiendra aussi que l'impact sur les marchés était proche de zéro. Ensuite, nous avons eu droit à un festival d'interprétation en live avec les chiffres américains. Ah oui, parce que il y avait foule pour donner son avis sur la question. Il y avait largement de quoi dire n'importe quoi et avoir l'air intéressant. Il faudra surtout retenir que l'ISM non manufacturier, autrement dit l'ISM des services, est sorti en dessous des attentes. Et c'était génial parce que la veille, on était touche à foin parce que l'ISM manufacturier était en dessus des attentes et que ça pourrait empêcher Powell de baisser les taux. Mais là tout de suite, quand tu as l'ISM des services qui représente tout de même 2/3 de l'économie américaine qui est en dessous des attentes, tu peux sérieusement commencer à bomber le torse et te dire que la Fed n'aura évidemment pas d'autre choix que de baisser les taux. Oui, parce qu'en fait l'économie n'est pas si forte que ça. Et puis ensuite, quand on regardait les chiffres en détail, on voyait qu'effectivement, il était en dessous des attentes, mais qu'il était quand même au-dessus des 50, ce qui signifiait qu'il y avait tout de même de la croissance. Mais moins que ce que l'idiot de l'analyse financière attendait. Du coup, quand on connaît la valeur des dieux en question, on se disait que c'était quand même pas certain que Powell prenne une décision basée uniquement sur ce chiffre-là. À partir de là, et aussi du fait que les chiffres ADP de l'emploi étaient nettement plus forts que prévu, probablement faux et bidonné, mais nettement plus forts quand même, on s'est dit qu'on était quand même un peu revenu à la case départ et que même avec toute la bonne volonté du monde, dans les chiffres d'hier, il n'y avait rien qui nous garantissait la certitude de voir baisser les taux dans les 3 prochains mois. D'où un manque de motivation évident. Il ne nous restait plus qu'à nous tourner vers les banquiers centraux qui devaient parler hier. Alors, en ce qui concerne les banquiers centraux, il y avait du monde qui était agendé, mais on en a retenu deux. Bostich, tout d'abord, patron de la Fed d'Atlanta, qui est bien connu pour repousser ses attentes de baisse de taux à chaque fois chacune de ses interventions. Chose qu'il n'a pas manqué de faire hier, puisque selon lui, les taux devraient baisser en 2024, mais pas avant! le quatrième trimestre. Je crois me rappeler que si l'on reprend ses quatre dernières interventions, à chaque fois il a repoussé la baisse des taux de 1 ou 2 mois, mais j'ai peur qu'il parle avant l'été, hein, non, parce que encore deux speeches comme ça devant la presse et le gars nous dit que les taux baisseront, mais pas avant le premier trimestre 2025, pour fêter la réélection de Trump et la hausse des taxes à l'importation aux USA. L'autre banquier central que l'on attendait hier, c'était le banquier central étalon, le banquier central numéro 1, le patron des patrons, Jérôme Powell. Alors, il n'y était pas allé par quatre chemins, Jérôme, hein. Il a été tout droit au but et il nous a dit que les taux allaient baisser. À ce moment très précis, hein, le marché a entamé une hola dans tout le stade et les gens du premier rang ont commencé à défaillir. Les adolescents prépubères ont commencé à hurler « Jérôme !» On se serait presque cru à un concert de Patrick Bruel. Et puis on s'est rendu compte qu'il n'avait pas terminé sa phrase. Jérôme Powell a donc recommencé et il a dit « Les taux vont baisser !» Moment de silence et roulement de tambour pour respecter les trois petits points. Mais pas tout de suite. Voilà. Toute l'excitation d'une journée de bourse résumée en une phrase. Peu importe les ISM, peu importe les PMIs et autres ADP, NFP, CPI, PPI ou high to court, il suffisait que Powell revienne nous dire que les taux baisseraient, mais pas tout de suite, pour clore le chapitre de la séance du 3 avril 2024. Nous nous retrouvions donc à la case départ, on se demandait toujours si l'inflation constatée en janvier et en février était là pour durer ou pas, et on se rendait compte que, mis à part botter en touche et repousser nos espoirs à plus tard, les banquiers centraux n'en savaient pas plus que nous. Il y avait même des statistiques qui laissaient penser que le nombre de baisses de taux attendues en 2024 était clairement en train de se diriger vers 2 plutôt que 3. Je ne sais pas que penser et je ne sais pas où nous en serons en décembre, mais par moment, j'ai peur que 2024 reste dans les annales comme l'année où on a passé le plus clair de notre temps à regarder le marché monter en repoussant nos attentes à plus tard, nos attentes de baisse de taux. C'est comme si tu avais réservé tes vacances pour aller ne rien foutre aux Maldives et que tous les 3 jours, ton patron repousse ton départ d'une semaine. J'ai peur qu'en avril 2025, on se dise encore « Bon, cette fois, c'est sûr, il va baisser les taux en juin. On va l'avoir, cette première baisse !» Ce matin, la Chine et Hong Kong sont en vacances pour cause de Qingming Festival. Pendant ce temps, le Japon est en hausse de 1,65%, principalement dû à un rebond technique, selon les experts. Alors, il faut savoir qu'en bourse, quand on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas pourquoi ça monte, on dit toujours « c'est un rebond technique ». Et si on est vraiment un pro, on dit « c'est un rebond technique parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs ». Mais en fait, on n'en sait rien. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le pétrole ne s'arrête plus de monter et que ça commence à parler dans les chaumières. À l'heure où je vous parle, le WTI est à 85,77 et le Brent est à 89,69. On est au plus haut depuis le 27 octobre et hier soir, Bank of America estimait que le baril pourrait facilement monter encore de 10% avant l'été et que si la Fed baisse les taux, ça va encore pousser le baril un peu plus haut. Nous y voilà! Ça fait des semaines que je vous dis qu'un matin, on va se rendre compte que le baril est monté de 20% depuis le début du mois de février et que ça va finir par se voir, d'abord dans nos porte-monnaies, mais aussi dans les calculs des stratèges de Wall Street. Bank of America sont donc les premiers à ramener le pétrole sur le devant de la scène. On attend les suivants. Je parie sur Goldman Sachs avant une semaine et avec un target à 130. Par contre, ce qui est intéressant dans le rapport d'hier, c'est que l'analyste estime que si la Fed baisse les taux, ça va encore faire monter le pétrole plus haut. Mais si le pétrole monte plus haut, ça va pas freiner l'inflation. Bien au contraire. Et si l'inflation repart à la hausse à cause du baril, ils pourront pas baisser les taux. Ben je crois que les prochains mois vont être fun à souhait. Pendant ce temps, l'or est indestructible et se traite à 2319. J'ai d'ailleurs commencé à en enterrer un peu partout dans le jardin. Et le Bitcoin, qui n'est pas dans le jardin, lui, est à 66 000 $. Comme on ne croule pas sous les news, mis à part la macro, hier on s'est pas mal occupé de Tesla. Le titre ne baisse plus, mais les analystes sont en train de tirer dessus à boulet rouge, sur Musk aussi. Bon, Musk, il doit s'en foutre, hein, parce que quand t'as 190 milliards sur le compte en banque, tu te fous pas mal du reste. Toujours est-il que depuis la publication des chiffres d'il y a 48 heures, tout le monde a son mot à dire sur Tesla, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a à boire et à manger. Entre Katie Wood, qui réitère son objectif à 2 000 $, et un hedge fund manager qui est short sur Tesla depuis la nuit des temps, qui estime que le titre peut encore perdre 91%, on a vraiment de quoi rigoler. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que presque tout le monde est en train de downgrader Tesla. JP Morgan parlait de 32% de baisse à venir et que le titre ne baisse plus. Par contre, Ce qui est fou, c'est qu'avant, Tesla était un ovni, une start-up nation à elle toute seule, la plus grande société du monde en devenir, elle était tout, sauf une marque de bagnole. Mais depuis mardi, eh ben, c'est plus qu'un vendeur de voitures, et électrique en plus. Autrement, il y a Google qui envisage de faire payer de nouvelles fonctionnalités premium alimentées par l'intelligence artificielle, ce qui constituerait le plus grand chamboulement jamais opéré dans son business model. Ce projet de réorganisation de son moteur de recherche, qui est une véritable vache à lait, serait une véritable révolution pour Google, mais aussi pour le reste des business gratuits sur le net. À quand le Facebook payant ou l'Instagram premium? Si ça se trouve, je vais bientôt vous faire payer pour lire cette chronique. Après bientôt 20 ans de gratuité. On parle aussi d'Apple qui veut se lancer dans les robots domestiques, d'Amazon qui vire des centaines de personnes dans le business du cloud, et de Janet Yellen qui part en balade en Chine, et d'Intel qui s'est fait encore une fois défoncer de 8% après avoir annoncé des pertes à venir du côté de ses chaînes de production. Et puis on conclura avec une petite nouvelle qui fait toujours plaisir. Selon les options et les futurs sur les taux, de plus en plus de traders sont en train de prendre le pari que le prochain mouvement de la Fed sur les taux directeurs se fera à la hausse. Je vous pose ça là et je vous laisse méditer. Pour ce qui est de la journée à venir, force est de constater que nous sommes toujours en mode macro. Ce jeudi ne sera pas la plus grosse journée de la semaine, mais il y aura le CPI en Suisse, comme c'est excitant. Plein de PMIs en Europe et aux USA, nous aurons les jobless claims qui nous donneront un peu de grain à moudre en attendant les NFP de demain. Et puis ensuite, il faudra attendre pour savoir s'il reste une petite chance de voir les taux baisser en juin. Actuellement, les futurs sont en hausse de 0,3%, poussés par les commentaires de Powell, qui est toujours notre ami, mais jusqu'à quand? Et puis, en ce qui me concerne, il me reste à vous souhaiter une très belle journée. On se revoit demain, comme d'habitude, même heure, même endroit. Soyez forts.